au début de notre évangile de ce matin, il nous est dit que la foule se mit à la recherche de Jésus. La recherche de Jésus, voilà la grande activité de notre cœur. Activité souvent laborieuse, pleine d'embûches, pleine de faux chemins, mais activité pourtant nécessaire si nous voulons vivre de Jésus. Nous l'avons vu dimanche passé, cette recherche peut conduire à des impasses, puisque, après avoir multiplié les pains, la foule voulait s'emparer de Jésus pour le faire roi, et qu'il dut se soustraire à leur présence pour retrouver dans la solitude la présence du Père. Ce matin, Jésus fustige à nouveau cette fausse recherche. « Vous me cherchez, dit-il, non parce que vous avez vu des signes. » Oui, cherchez Jésus. C'est un thème récurrent dans l'évangile de Jean. Dès le premier chapitre, alors que se présentent à lui André et Jean, qui vont devenir les premiers disciples, Jésus leur pose cette question. Que cherchez-vous? Ce n'est pas encore qui cherchez-vous, car ils sont au tout début de leur quête. Que cherchez-vous? Et puis, pour faire un saut jusqu'à la fin de l'évangile de Jean, il y aura cette phrase, sans doute dure à entendre pour ses disciples, alors que Jésus prophétise les actes douloureux de la passion dans lesquels il va entrer. « Vous me chercherez. Vous me chercherez. » Car à un moment, il va disparaître de leur présence sous la forme à laquelle ils étaient habitués, la forme physique d'un homme qui était au milieu d'eux. Et puis il y aura cette question après la résurrection à Marie-Madeleine. « Qui cherches-tu, femme? Pourquoi pleures-tu ? » Décidément, cette quête n'est pas simple. Et les anges eux-mêmes, au matin de la résurrection, demanderont aux saintes femmes « Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts ?» Chercher Jésus signifie un grand acte d'humilité. Chercher Jésus signifie d'être réellement à son écoute, signifie se mettre à l'école de sa parole. Et comme à l'école, ce n'est jamais fini. Et comme à l'école, il faut accepter d'apprendre. D'apprendre quelque chose de nouveau. Comme à l'école, il faut accepter de discipliner son intelligence. Ici, non seulement l'intelligence raisonnante, mais plus encore et plus profondément, l'intelligence du cœur. C'est la raison pour laquelle, dans la deuxième lecture que nous avons entendue tout de suite, tirée du chapitre 4 de la lettre aux Éphésiens, saint Paul est d'une netteté absolument lumineuse. Lorsqu'il fustige ceux qui se laissent guider par le néant de leurs pensées. Il n'y va pas par quatre chemins. Le néant de leurs pensées. Tant de fois, nous pensons, nous estimons pouvoir, avec les seules ressources de notre intelligence, approcher le mystère de Dieu. Et nous nous étonnons de nous heurter à un mur. Et c'est pourquoi le même saint Paul, dans ce chapitre 4 de la lettre aux Éphésiens, exhorte avec force de se laisser renouveler par la transformation spirituelle de notre pensée. Oui, il y a une conversion de l'intelligence à vivre. Et comme je le disais au départ, elle demande beaucoup d'humilité, beaucoup d'obéissance intérieure, pour aller jusqu'à estimer que la parole de Dieu vaut plus que la parole d'un homme, que la pensée de Dieu est infiniment au-dessus de la pensée des hommes. Comme Jésus lui-même le dira à Pierre, « Tes pensées ne sont pas mes pensées ». C'est un aspect de la conversion que nous oublions souvent. Nous réduisons trop souvent la conversion au Christ à un changement dans notre manière de vivre, à un changement de moralité. Mais il n'y aura pas de changement profond si nous ne commençons pas par cet acte d'humilité qui consiste à laisser la lumière de Dieu éclairer notre raison, à lui donner cette lumière qui est celle de la foi. Car c'est cela, comme Jésus le dit dans l'évangile de ce matin, qui est l'œuvre de Dieu par excellence, c'est que vous croyez. Si on nous avait posé cette question, quelle est l'œuvre de Dieu, je pense pouvoir dire que personne n'aurait répondu que l'œuvre de Dieu, c'est le fait que nous croyons. C'est une œuvre divine, ce n'est pas l'œuvre humaine. Et c'est pourquoi elle nécessite, elle requiert que nous nous mettions humblement à la disposition de Dieu. Car comme il le dit aussi dans cet évangile de ce matin, « Qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Même si le fait de croire ne nous donne pas réponse à toutes les questions, et même si, ayant trouvé le Christ, il faut continuer indéfiniment à le chercher, continuer indéfiniment à creuser ce que signifie sa présence au cœur de notre vie, à creuser ce que signifie cette invitation incessante qui est la sienne pour nouer une relation toujours plus profonde et vraie avec nous, eh bien, il s'agit donc d'une quête indéfinie qui ne sera même pas achevée dans l'éternité tant le mystère de Dieu est proprement infini. C'est la seule manière de ne pas retomber dans l'aberration qui fut celle du peuple hébreu et qui est souvent la nôtre, qui nous fait préférer un esclavage confortable, celui de la terre d'Égypte, à la fidélité exigeante à Dieu, à cette fidélité qui nécessite pour nous d'accepter que toute la lumière n'est pas encore faite, mais qu'elle est suffisante pour engager toute notre liberté à la suite du Christ. Et pourquoi engager notre liberté à la suite du Christ? Tout simplement pour devenir, comme le dit très bien une prière eucharistique, la troisième, qui est reprise dans la prière sur les offrandes que nous entendrons dans quelques instants, cette liberté a pour finalité de faire de nous-mêmes une éternelle offrande à la gloire de Dieu. C'est dans cette quête fidèle, sans cesse approfondie, sans cesse reprise, qui dit réellement notre amour pour ce Christ que nous cherchons, c'est dans cette quête que nous faisons offrande de notre vie, déjà en vue de l'éternité, pour la gloire de Dieu.